Voilà, nous voulons prier avant de passer à la prédication. C'est vrai que nous avons préparé ce matin, mais c'est Dieu qui l'a préparé, ce n'est pas nous qui l'avons préparé. Il s'est servi de nous pour le préparer. Nous voulons lui confier ce moment pour qu'il nous conduise et que nous puissions être disponibles pour ouvrir nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce déjà pour ce moment que nous avons vécu de louange. Pour ce moment où nous avons pu t'honorer, dire combien tu étais grand, combien tu étais merveilleux. Et nous voulons te louer pour cela. Et nous voulons continuer, Seigneur, à regarder à toi maintenant pour que tu pénètres au plus profond de notre cœur, au travers de ta parole que tu vas nous enseigner. Vraiment, Seigneur, que tu conduises, que tu bénisses ce moment, que nous puissions, que cette parole qui va être donnée puisse pénétrer au fond de mon cœur, au fond de notre cœur. Quelle soit cette nourriture qui nous permet d'avancer, de pouvoir témoigner, de pouvoir vivre notre foi et de nous affermir dans notre foi aussi. Et nous voulons te dire merci pour ce que tu vas nous donner. Gloire te soit rendue par Jésus, notre Sauveur. Amen.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles. À la première épître de Pierre, au chapitre 5, et nous lirons le chapitre entier. 1 Pierre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans des rapports mutuels, remettez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots. Pour vous exhorter et pour vous attestez que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu.
Voilà, on était 5 à préparer, mais voilà, on était plus que 5, puisqu'il y a la présence de l'Esprit. Et 5, c'est comme les doigts d'une main. Hein. Il y a un côté, chaque doigt est articulé avec les uns les autres, avec une articulation, et ça fait une main. Hein? Et il y a une sorte de soumission les uns les autres des doigts pour former une main. Et on est animé par une vie dans cette main. Et j'ose dire ce que je reçois quand Pascal y dit que l'Esprit de Dieu habite en moi, je prêche comme Jésus. Alors que cette main, les cinq, animées par l'Esprit, prêchent comme Jésus. Voilà. C'est ma prière tout le long de cette prédication, c'est notre prière, tous les cinq, c'est votre prière aussi, que voilà, il n'y ait pas, je ne sais pas, un poil qui pousse dans la main. En parlant de poils dans la main, Pierre, parle de ça. Il dit aux anciens, aux responsables de l'Église, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. » C'est-à-dire non... Ah, j'y vais, mais j'ai pas envie. Il combat la paresse, là. Par le zèle. Sois zélé par l'esprit. Tu peux pas faire le service du Seigneur par tes forces, par devoir, par une contrainte que tu es obligé, qu'on te fouette, quoi. J'attends quelque chose, ou j'attends, je ne sais pas, une carotte ou un bâton pour faire. Mais c'est par l'Esprit que je sers le Seigneur, que je suis zélé, et je ferai des choses que c'est impossible que je puisse faire. Parce que ça, c'est le Seigneur qui fait son œuvre, dans cette main. On a du mal aussi à écouter ce verset 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On préfère quand même plus lire le verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » On le connaît plus peut-être verset 7 que verset 6. Alors peut-être que vous allez dire, « Mais attendez, vous êtes la main de Dieu ?» Non, je ne vais pas me soumettre à votre main, là, votre... c'est pas la main de Dieu ça. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est la main du berger, du souverain berger. Hein? Et on a entendu que Christ est le roi. Hein? Il est le roi, il règne. Comment il règne? Comment il règne maintenant? Comment je peux m'humilier sous la puissante main de Dieu maintenant? À travers qui, à travers quel doigt, à travers quel membre? Et moi, qui je suis pour représenter le roi? Pour que je règne, enfin qu'il règne à travers moi. On a chanté, il est le roi des rois. On pourrait se dire, ah mais c'est les rois de la terre. Est-ce que ce n'est pas nous les rois? Est-ce qu'il n'est pas le roi des rois, nous les rois? Oui, il est le roi des rois que nous sommes, parce que nous sommes fils de roi. Nous sommes rois, nous sommes appelés à régner, et nous sommes premièrement à régner sur nos péchés, sur notre paresse, sur notre anxiété, sur notre orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ah, il est parlé de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Il y a cette soumission mutuelle, la soumission intergénérationnelle. Et je vous invite maintenant à écouter le témoignage d'un de ses doigts, Sarah, qui va parler de ça.
Alors, je suis professeure de musique, je fais des études, et puis, on m'a enseigné à transmettre mon savoir. Et donc, je travaille dans un collège, donc je transmets mon savoir à des petites bêtes qui grouillent pas mal, là, des adolescents, des préadolescents pleins d'énergie. Et voilà, donc c'est facile, c'est quand on est prof, de dire, écoutez-moi, je vais vous dire, je vais vous enseigner. Et j'ai appris, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, j'en suis convaincue, à me soumettre aussi à mes élèves, à ne pas leur enseigner une chose, une vérité, c'est moi qui parle, vous écoutez, vous devez dire, alors pas amen, parce qu'on est dans un pays laïque, mais vous devez dire oui à tout ce que je dis, et je ne me trompe jamais. Et voilà, j'ai appris à accepter que mes élèves me disent, mais madame, là vous vous êtes trompée. Ah oui, vous avez raison. Et je pense que, voilà, dans l'Église, on est appelé à être soumis les uns aux autres, dans le sens où, dans l'amour fraternel, on peut accepter d'être parfois corrigé, d'être accompagné, d'être recadré, de recevoir, d'entendre de nos frères et sœurs que parfois on est dans l'erreur, on n'est pas dans le bon. Et ça nous permet de nous remettre dans le droit sentier et dans la vérité. Voilà, tout comme on nous dit donc dans ce passage, d'être soumis à nos anciens. Et bon, le fait aussi que je me sente encore un peu jeune, et puis maman de pas mal d'enfants, j'ai 6 enfants, j'ai à cœur la catéchète, j'ai à cœur les jeunes dans mon église et dans l'église du Christ. Et oui, les jeunes doivent être soumis aux anciens, mais je crois que dans une famille, et j'aime bien cette image, on est la famille de Christ, on est tous ensemble, on est un. Et notre force, c'est que nous prenions et nous soyons au bénéfice les uns des autres. Oui, les jeunes ont besoin d'avoir leur place dans l'Église, c'est certain. Mais ils ne pourront prendre leur place dans l'Église que s'ils sont attentifs aux anciens. Et là, je tiens, j'ai pas dit que si les anciens leur font leur place, leur font une place, s'ils sont attentifs aux anciens. Et pour qu'ils soient attentifs aux anciens, certes, il faut que les anciens leur fasse une place. Et que, voilà, on est une famille, on est tous unis. Et ça, c'est, voilà, pour moi, c'est très, très important.
Ça, c'est le côté un peu règne. Et c'est pas qu'un peu, il y a vraiment besoin de cela. Il y a besoin de régner, comme on vient de dire, sur notre péché, sur notre orgueil. Du coup, l'humilité est tellement importante. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. On est tellement dans l'orgueil. On n'accepte tellement pas d'être impuissant. D'être impuissant. Une épreuve vient. Une main qui se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le Seigneur avec moi dans cette épreuve ? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a besoin de s'humilier sous la puissante main de Dieu, de souffrir, de s'offrir, d'être dans cette offrande à Dieu. C'est toi, je suis ta brebis, tu es le berger, c'est toi qui prends soin de moi. Fais ce que tu veux avec moi et que je fasse ce que tu veux, toi. Mais restaure-moi. Il y a besoin de cette foi qui s'offre, de cette confiance de la brebis envers le berger. Et cela va nous soigner de notre orgueil qui produit souvent notre anxiété. On n'a peut-être pas bien réfléchi à ça, mais souvent notre anxiété vient du fait qu'on n'accepte pas d'être impuissant, n'accepte pas d'être sous la puissante main de Dieu. Alors, on va écouter ce témoignage de Véronique. Merci Véronique de venir.
Bonjour, donc je suis Véronique de l'église de Rodez. Voilà, je vais vous apporter un témoignage de reconnaissance et à Dieu, et parce qu'il a en fait, il a tout conduit dans mon histoire. Donc je vous raconte, j'ai ces deux dernières années, bon, ça fait 36 ans que j'étais en poste dans un emploi, ça se passait très bien. Je suis soignante et j'aime beaucoup mon métier. Et depuis 2 ans, j'ai vécu des turbulences, enfin des choses... Alors je suis quelqu'un de très positive et je prends beaucoup de recul, peut-être trop, j'aplanis, je relativise énormément. Voilà, donc je crois que je ne réalisais pas les choses jusqu'à ce qu'un jour, le 25 juin 2021, à 15h, j'ai craqué. Voilà, j'ai fait un burn-out, chose que je ne pensais jamais faire. Voilà. Donc j'ai quitté mon travail. Et je pensais, bon, un mois d'arrêt, me reposer. Et je pensais, bon, après au mois, c'était juillet, donc en arrêt. En août, j'étais en congé annuel et je me disais, bon, en septembre, je reprends, tout va aller. Sauf qu'à l'échéance, j'étais une loque, enfin, vraiment, ça n'allait pas du tout. Et ça a duré, 2 ans, un an et demi. Voilà. Donc je ne savais pas trop où j'allais, je regardais sur internet un petit peu, parce qu'en fait je sentais que je ne pourrais plus reprendre mon travail. Donc je regardais, mais en même temps je priais, je demandais à Dieu de conduire les choses, que ce ne soit pas moi qui décide. Voilà, et maintenant j'ai quitté mon travail, je viens d'être en inaptitude, sans reclassement possible. Donc je n'ai pas eu à démissionner de mon travail après 36 ans et perdre tous mes avantages. Voilà, je remercie Dieu pour ça. Et mercredi, j'ai eu la réunion du conseil. Et donc je devais préparer le moment inspi. Et bon, c'est vrai que je suis un peu habitée par ce que je vis. Parce que maintenant ça va bien. Et j'ai eu à cœur de partager ça. Donc en fait, j'avais écrit une lettre racontant tout mon parcours professionnel. Et en l'écrivant, ça a été thérapeutique, j'ai réalisé les choses graves que j'avais vécues, inacceptables, que j'acceptais parce que c'est mon caractère. Voilà, j'ai réalisé tout ça, donc j'ai voulu partager ça avec mes frères et sœurs au conseil, pour qu'aussi ils comprennent pourquoi des fois j'ai été en retrait, silencieuse, tout ça. Et en préparant mon petit speech, je me suis aussi rendu compte, j'ai réalisé que Dieu avait toujours été là, même si des fois j'ai voulu mener les choses. Voilà, il a mis des professionnels sur ma route. J'ai pas eu affaire à mon médecin traitant qui, je pense, m'aurait pas accompagnée comme ça. Il se trouve qu'il y avait une interne dans le cabinet médical qui m'a reçue en pleurs et que j'ai demandé à consulter. Enfin, elle m'a suivie Et elle a été très bienveillante et elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, je vous ferai des arrêts tant qu'il y aura besoin. » Voilà. Parce que moi, je n'avais jamais été arrêtée comme ça, sauf quand mes enfants étaient hospitalisés. Ou... voilà. Donc, j'ai eu toute cette bienveillance et j'ai réalisé, quand j'ai partagé au conseil tout ce déroulement, que Dieu avait toujours été là, qu'en fait, j'avais toujours eu la paix. Je n'avais jamais eu de ressentiment, même... je travaillais avec un docteur qui, bon, après coup, je me suis aperçue qu'elle était perverse et qu'elle m'a démolie en une semaine. Et que je n'avais pas de ressentiment, que, en fait, voilà, je me disais, Seigneur, pardonne-la parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà. Est-ce qu'elle est responsable, est-ce qu'elle n'est pas responsable, j'en sais rien. Donc, tout ça, je l'ai réalisé. Comme je vous disais, j'ai réalisé les choses après coup. Moi-même, quand je suis malade, je me dis, finalement, j'étais malade. Mais je continue ma vie, je suis toujours très active. Voilà, et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a gardée dans cette paix. Il m'a gardée dans l'amour aussi, parce que quand j'ai partagé la lettre avec mes proches, il y en a plein qui m'ont dit, on n'avait jamais pensé que tu avais vécu ça. Enfin, voilà. Donc, j'ai gardé quand même ma paix, l'amour et... et voilà, et maintenant j'ai retrouvé ma joie, donc je voulais remercier le Seigneur pour tout ça.
Merci Véronique pour le témoignage. Donc on a vu qu'en tant qu'Église, on est appelé à vivre une vie de soumission mutuelle. On a vu que c'était un mot qu'on a eu de la peine à accepter. Mais que, en fait, cette vie de soumission mutuelle, c'est se vivre vraiment dans l'humilité. Justement, dans la lettre aux Philippiens, il y a des divisions dans l'Église. Certaines personnes veulent faire d'une certaine manière, d'autres veulent faire d'une autre manière, d'autres encore d'une autre manière. Et Paul dit à cette église, soyez humbles, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Et là, vous arriverez à avancer, parce que vous serez dans une unité. Et en fait, la soumission mutuelle, c'est aussi ça. Considérez l'autre comme étant différent de soi, mais respecter la place à laquelle Dieu l'a placé. Et respecter justement son autorité, parce que c'est là où Dieu l'a placé, en ce moment. On a vu avec Véronique que ça pouvait parfois être difficile, que... il y avait des obstacles dans la vie d'église, dans la vie chrétienne, dans la vie en règle générale. À vivre une vie de chrétien, une vie de soumission à Dieu. Mais ce qui nous encourage, c'est que, comme on l'a vu avec Véronique, Dieu dirige toute chose. Dieu conduit malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Et dans ce passage, il y a quelques versets qui sont magnifiques, justement. Le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, donc on parle de la souffrance, des obstacles, mais ce Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Si on place notre foi, notre confiance, notre vie en Jésus-Christ, on sera inébranlable. On ne pourra pas bouger. C'est ça que ça veut dire, inébranlable. On est fixe. On va dans la bonne direction. Et malgré les obstacles, rien ne pourra nous détourner de l'objectif. Et regardez le verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. On a cette vision, pas simplement pour le présent, mais pour l'avenir. Quand Jésus-Christ reviendra, toutes les souffrances disparaîtront, tous les obstacles seront enlevés. Et on pourra regarder dans le passé et dire, oui, Jésus-Christ a bien dirigé son Église. Jésus-Christ nous a conduits et nous a amenés d'un point A à un point B, nous a amenés d'un endroit terrible, de difficulté, à un endroit, le paradis éternel, avec Dieu. Plus de souffrance, la paix en abondance. Et si justement on essaie de vivre cette soumission mutuelle, si on essaie de vivre cette unité d'Église, l'objectif, on le verra et on va foncer dedans et ça va être beau et magnifique. Que Dieu nous vienne en aide pour vivre cette humilité, vivre cette soumission mutuelle. Amen.